When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque premier et troisième lundi de chaque mois à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie j'aime ouvrir des portes et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des portes sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de Daron, de pouvoir offrir une tribune à l'autre moitié de la population qui est souvent mise de côté et qui, faut le dire, n'a jamais trop fait l'effort de s'inclure aussi dès qu'on parle de parentalité, sujet pourtant ô combien universel. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des pères? Comment redéfinir la paternité à l'aube de la deuxième moitié du 21e siècle alors que la société a tant changé depuis une dizaine d'années? C'est ce que j'essaie de vous offrir à travers mes interviews dans Histoire de Daron. Cette semaine, je reçois Jérémy Kless, que vous avez peut-être déjà entendu dans le podcast Sens Créatif, très connu au sein de la communauté des graphistes, illustrateurs, designers et autres professionnels de l'image. Merci à Jérémy pour cette discussion très profonde où on discute... Merci à Jérémy pour cette discussion très profonde où on parle de la façon dont il a pris, ou plutôt pas pris, sa place de père au tout début de sa paternité, de l'épiphanie qu'il a eue durant le premier confinement, des freins qu'il a rencontrés et sur lesquels il travaille grâce à la thérapie. On cause aussi de dépression postpartum puisque sa femme a créé le compte Insta Postpartum Ta Mère suite à sa propre dépression postpartum. Enfin, on a un échange très intéressant à propos de l'éducation religieuse très traditionnelle de Jérémy sur laquelle il a pris du recul aujourd'hui et comment il souhaite transmettre cela à ses deux fils tout en les préservant des aspects plus négatifs de la religion. Un immense merci à Jérémy, c'était une discussion vraiment puissante et j'espère qu'elle vous touchera autant qu'elle m'a touché. Et donc pour remettre juste un peu de contexte par rapport au début de l'interview, j'ai proposé à Jérémy de mettre un casque et vous verrez, sa réaction est amusante.
J'ai l'impression d'être séparé de toi là.
Non, au contraire.
Tu vois ce que je veux dire? Genre.
Non, au contraire, on va être beaucoup plus dans une bulle, tu vas comprendre. En fait, on s'entend beaucoup mieux.
Oui, c'est vrai qu'on s'entend très bien, ouais.
Que si on était là, et puis même je peux chuchoter.
Oui.
Et en vrai, tu m'entendrais pas si je chuchotais comme ça et qu'on avait pas de casque.
Non.
Tu veux qu'on chuchote tout l'épisode? Non, on va pas faire un épisode ASMR, il y a des gens que ça trigger un petit peu. On est donc avec Jérémy.
Salut.
J'ai démarré, hein, je te préviens.
Ah, je me doute.
Bon, après, tu connais un petit peu, tu sais comment ça marche. Ouais.
J'aime bien aussi lancer l'air de rien avant.
Jérémy, enchanté.
Ouais, de même.
Ça fait plaisir de te rencontrer. Tu m'avais envoyé un mail il y a quelques années de ça. Pour me présenter un peu ton podcast qui s'appelle Sens Créatif, que j'avais découvert suite à ça. Je t'avoue que je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant de le faire venir dans Histoire de Daron. Mais je crois qu'en plus, tu ne l'avais pas envoyé pour ça, tu avais juste envoyé...
Je l'ai juste rencontré. Et je me suis juste dit que ça pouvait potentiellement t'intéresser. Enfin, juste le podcast, quoi.
Ouais.
Mais ouais. C'est parce que je suis tes podcasts depuis quelques années, enfin pas mal d'années d'ailleurs, et puis que je m'étais dit, je pense qu'on aurait des choses à se raconter autour d'une bonne petite frite.
Oui, parce que t'es belge.
Ouais.
Et que moi, en tant que frontalier...
C'est ça.
On connaît le Bicky Burger. Quoi,
voilà. Ah, mais c'est merveilleux le Bicky Burger. Les gens qui ne connaissent pas le Bicky Burger ne savent pas à côté de quoi
ça,
il passe.
C'est un peu ça le truc. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le Bicky Burger, c'est triste. Ou alors l'américain-américain. Quoi,
absolument. Mais j'en ai parlé hier à des coworkers. Je dis l'américain préparé, vous ne savez pas ce que c'est.
Bah oui.
Et c'est merveilleux.
Alors pour expliquer aux gens, c'est un sandwich avec du fil américain dedans. Alors, ouais. Je ne sais même pas si ailleurs quand. Est-ce que ailleurs en France on sait ce que c'est que du fil américain?
Je crois pas. Non, je pense que c'est
une sorte de viande hachée avec une préparation.
Ouais. Mais c'est super bon, c'est hyper bon. Mais quand tu vois des photos, c'est pas très.
C'est un steak tartare peu industriel.
Voilà. J'aurais pas cru que je parlerais de Bicky Burger et d'américain préparé aujourd'hui.
Et donc, c'est un sandwich où vous mettez ça sur votre pain et dedans, tu fourres le sandwich de frites.
Voilà, c'est ça. C'est d'une finesse absolue.
Bah, c'est belge.
Voilà, c'est
et
ça.
Et c'est ça qu'on aime.
C'est la beauté.
C'est qu'on aime en Belgique.
C'est ça. C'est genre straight to the point.
Donc Jérémy, je suis très content de te recevoir pour expliquer un petit peu ton podcast. T'as lancé ça il y a quelques années, on va en reparler sans doute. C'est un podcast où tu interviews globalement des illustrateurs et globalement des gens qui travaillent dans le milieu de l'illustration,
et
du graphisme et de l'image.
Ouais, c'est ça. Oui, j'ai lancé ça en avril 2019. Et puis c'est un petit peu en lien avec le sujet de ton podcast, parce qu'en fait, je suis devenu papa en juin 2018, et ça a été une sorte de séisme, pas mal pour ma femme, qui a fait une sorte de dépression postpartum, enfin pas une sorte, elle a fait une dépression postpartum, et moi j'ai pas accusé le coup tout de suite, mais en tout cas, cet enfant nous a beaucoup occupés. Tu sais, on est devenu parents à 29 ans et en fait, très occupé à m'occuper de ce petit bout qui s'appelle Phoenix.
Je t'ai perdu.
Ouais.
T'es parti, je sais pas où t'es parti, mais t'es parti. J'ai vu ton regard partir. Les gens ne le voient pas, mais...
Ben, c'est simplement que je me suis beaucoup occupé de cet enfant. Tout ça, c'était nouveau. Et puis, ben, en fait, de novembre 2018 à février 2019, pas de boulot. Donc, moi, je suis illustrateur depuis 2013. J'ai déménagé en région parisienne pour rejoindre ma chérie. Puis, on s'est marié en 2014. Et puis après, on est devenu parents à 29 ans en 2018. Donc, de 2013 je créais ma... Je mettais les dominos pour ma carrière d'illustrateur. C'était un peu mon rêve de toujours et ça marchait. Et j'étais très content. Et puis, je suis devenu papa. Et puis, ben, plus le temps d'investir dans mon boulot. Et donc, du coup, à un moment donné, on s'est posé la question avec ma femme, est-ce que tu continues à être illustrateur? Sachant qu'on a une bouche de plus à nourrir.
Je te propose qu'on arrête là.
Ok.
Et qu'on en reparle après.
D'accord. C'est parce que tu me parles de sens créatif.
Je sais.
Okay,
et
d'accord.
Qu'on reprenne le fil. On reprendra le fil de l'histoire un peu plus tard.
D'accord.
Bien teaser, tu sais.
Non, mais ça me va très
comme
bien.
Comme ça, les gens.
Hop, ouais.
Revenez plus tard. Attendez la suite, quoi.
Ok.
Je voudrais reprendre un fil chronologique, en fait, si tu veux bien.
Bien sûr.
La première question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'es venu, toi, l'envie de faire des enfants?
Ah ben, je pense que ça a toujours été une évidence pour moi, dans ma construction familiale, dans mon éducation, dans... je me souviens que quand je me suis mis avec Madeleine, genre 2 semaines plus tard, je lui parlais déjà d'enfant, elle était genre « waouh, on se calme », tu vois, et j'étais genre « non, mais... »
T'avais quel âge ?
J'avais 23 ans.
Ok.
Non, 21. Attends, ouais.
T'étais jeune.
Ouais, c'est ça. Et j'étais genre, non, mais ça se trouve, toi et moi, ça se fera pas, tu vois. Mais en tout cas, je me projetais déjà dans la parentalité.
Et tu lui en parlais ouvertement.
Je lui en parlais ouvertement.
Et elle est pas partie en courant.
Non, mais she was freaked out, tu vois. Elle était genre... j'étais genre, ben non, mais j'ai besoin de pouvoir en parler, genre, comme quelque chose de normal, tu vois. Ça veut pas dire que ça va se faire entre toi et moi ou qu'on aura des enfants ensemble, mais en tout cas, c'était genre, si je me projette avec, je me projetais très sérieusement avec elle et donc les enfants.
Au bout de 15 jours, tu savais déjà que tu te projetais très sérieusement avec elle.
Ouais.
Ok.
Ouais.
T'es reparti.
Je sais.
Ça va? À quoi tu pensais là?
Je pensais au fait que de par mon éducation, enfin pour moi en fait, Madeleine ça a été ma première, mon premier amour en fait. Je veux dire, je suis tombé amoureux 2 fois dans ma vie et elle c'était la seconde fois. Et mais j'ai pas eu d'autres chéris avant elle en fait. Et pour moi, dans mon éducation, je t'en parlais en off, je suis une éducation religieuse assez marquée. En fait, c'est juste genre, c'est sérieux en fait. Et donc du coup, si tu te mets avec quelqu'un, c'est en tout cas, c'est pas forcément que celui que ça se fasse, mais en tout cas, il y a, l'idée de se marier et potentiellement d'avoir des enfants, mais en tout cas c'est pas un truc à la légère. Donc du coup quand je me suis mis avec elle et que vraiment j'étais vraiment amoureux d'elle, tu vois, c'était genre si ça se fait entre elle et moi, il y aura des enfants, tu vois.
Ok.
Donc voilà. Et puis en fait on a pris notre temps.
Ouais.
On s'est marié en 2014 et puis voilà, comme je t'ai dit, on est devenu parents en 2018 et puis on n'était pas pressé, on avait envie d'abord de vivre un peu, enfin à notre échelle, pas pressé, un peu d'autres personnes peut-être qui seraient genre un an, vous l'avez fait vite quand même, mais pour
29 ans pour un couple qui vit à Paris, c'est tôt.
Ouais.
Un peu tôt, ouais. Tu vois.
Mais tu sais, nous, enfin je veux dire, beaucoup de gens qu'on connaissait, ils sont devenus parents à 22-23, tu vois, genre. Donc nous, le fait
de... Tu veux dire en Belgique?
Non, dans les cercles dans lesquels on évoluait, etc. Ouais. Enfin, moi, je m'étais toujours dit, mentalement, je voudrais devenir parent fin de la vingtaine, début de la trentaine.
Okay.
C'était un petit peu une sorte de marqueur que je m'étais dit dans mon esprit. Et puis, ben, on a vécu un petit peu notre vie de couple à deux. Et puis après, elle voulait pas d'enfant. Enfin, moi, j'étais un peu genre, dis-moi quand c'est bon pour toi, tu vois. Je voulais pas tout de suite non plus, mais j'étais genre prêt plus tôt. Et puis après, je sais pas, voilà, en 2016, je me souviens très bien, on se baillait en Paris. Et puis, il était genre, ben ouais, je suis prête, ça me dit bien. Et en fait, on a mis un an pour qu'elle tombe enceinte. C'était quelque chose qui la pesait pour que...
Tu veux dire que ça ait mis un an, c'est ça?
Ouais, pour qu'elle tombe enceinte, ouais. Et puis voilà, en 2018...
Pour revenir à ça lui pesait, c'est-à-dire que elle de cette là se mettait une pression, c'est ça?
Ouais, enfin le fait que ça prenne un an pour qu'elle tombe enceinte,
okay.
Tu vois, c'était voilà, assez mal vécu.
Alors que c'est normal en plus, hein, je crois.
Ouais, c'est
dans
ça,
les statistiques.
C'est ça, bon, avec du recul et tout, machin, c'est genre... Mais bon, quand tu le vis, voilà...
Et toi, comment tu le vivais?
Ben moi, je le vivais pas mal. Enfin, j'étais genre... ça viendra quand ça viendra, en fait.
Ok, t'étais comme ça.
Assez cartésien, assez genre, bah, on fait ce qu'il faut. Ça arrivera quand ça arrivera. Et puis c'est arrivé, et puis... puis j'étais très heureux. Genre, le jour où elle m'a annoncé qu'elle était enceinte... je suis très heureux, mais c'est drôle parce que je crois que j'ai observé mes premiers cheveux gris plus ou moins genre quelques semaines après qu'elle m'ait dit qu'elle était tombée enceinte, et je pense que ouais, c'est tellement... Ta parentalité, c'est genre quelque chose de... C'est viscéral, quoi. C'est genre quelque chose de... Et... oui, enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire que j'étais très heureux et en même temps, genre... ah ouais, ouais, ok.
Un peu inquiet?
Non, pas inquiet, mais genre, je suis plutôt du genre à prendre beaucoup de choses très intensément, avec beaucoup de sérieux. C'est la même chose que je te disais juste avant. Ouais. Donc, tout très sérieusement. J'ai un souci j'aimerais être plus léger. Ou d'insouciance. Je suis pas quelqu'un d'insouciant du tout, je suis même quelqu'un de beaucoup trop
soucieux. Un peu anxieux?
Non, enfin peut-être un peu, mais c'est plutôt genre de bien faire les choses, tu sais, genre de bien anticiper, de bien préparer, de bien faire les choses, genre et en réalité c'est justement ça que la parentalité et puis devenir papa a tout foutu le bordel, c'est que simplement c'est pour moi, devenir papa, ça a été la... ça a été l'émergence de ce petit être qui te met à genoux. C'était genre, je pouvais pas ignorer tous mes manquements, tous les trucs que je faisais pas bien, tout ce pseudo-perfectionniste de merde que c'était genre... peu. Et en fait, c'est salvateur. En fait, ça a été salvateur pour moi. Mais... pour moi, devenir papa, ça a été l'autoroute pour la connaissance de soi, en fait.
Bon, on va en reparler.
Ouais.
Surtout que tu vas devenir papa pour la deuxième fois, c'est ça?
Ouais, en octobre, ouais.
Je crois que le deuxième, pour moi, c'est plus qu'une autoroute, c'est une autoroute à sept voies.
C'est vrai?
C'est une autoroute de Los Angeles.
Pourquoi?
Bah, je sais pas si je te spoil. Non, non, je sais pas.
Mais j'aime bien cet exercice de connaissance de soi, tu vois.
C'est, bien genre, sûr.
C'est quelque chose que je trouve fascinant et que je remercie mon enfant, tu sais, de... Mais ouais.
En fait, pour te répondre un peu, mais en tout cas, moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est que j'avais un peu la sensation que la première fois, c'était cool parce que y avait, tu découvres plein de choses, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, bah, tout ce que tu endures de pas cool, tu vois, les nuits courtes, le sommeil, l'anxiété, enfin, tu vois, le genre de trucs qui peuvent être liés à la naissance d'un enfant, c'est un peu gommé par c'est nouveau, tu vois.
Oui.
Et puis, il y a la magie de la nouveauté, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Là où je trouve que sur le deuxième, il y a un truc un peu de ok, en fait, on l'a déjà fait.
Mmh.
Et puis potentiellement t'as le premier qui est pas très loin, quoi, tu vois, si tu l'as fait toi.
Il va avoir 3 ans,
voilà.
Ouais.
Donc voilà, c'est encore un bébé, quoi, tu vois, faut encore,
ouais,
s'en occuper.
Ouais.
T'as plus la magie de ça, plus le petit premier qui est là, eh oh, moi je suis là,
exactement. Ouais.
Fais-moi signe, bref. Petite digression, mais comment s'est passée la grossesse?
La deuxième ou la première?
La première.
Très bien.
Ouais.
Ouais, Madeleine a super bien vécu. Ça a été plus la douche froide une fois la naissance, en fait.
Tu vas me raconter ça?
Ouais, ouais, bien sûr.
Comment s'est passé l'accouchement?
Bien. Madeleine. Enfin, elle et moi, on avait fait de l'autonomie.
Ok.
Et donc, moi, j'ai pu être très impliqué et présent lors de la naissance. Et ça, c'était très cool. La naissance en soi, l'accouchement s'est bien passé. Enfin, ça s'est pas passé parfaitement, mais ça s'est bien passé. Ce qui a été très dur pour Madeleine par la suite, c'était la prise en charge dans l'hôpital, genre le service hospitalier, elle débloquait totalement d'un peu, genre, on prenait pas bien soin d'elle, elle se sentait pas comprise, elle découvrait tout le corps, enfin ton corps, enfin
les hormones,
enfin tout le truc, tout. Tu vois. Et en fait, il y avait ce truc, enfin, je veux pas parler à sa place, tu sais, ouais. Mais parce que c'est une histoire qu'elle a fait très publique, parce qu'elle est notamment celle qui a créé le compte Instagram Postpartum ta mère.
Mm.
Et en fait, pour elle, la maternité a vraiment été ça l'a révélé, en fait. Elle s'est trouvée c'était quelque chose de viscéral, quoi. Et justement, elle vivait dans ce... Enfin, c'est pas moi, c'est pas mes mots, c'est les siennes, mais que... Tu sais, tu verras, c'est que du bonheur, c'est genre... Ouais. Oui, c'est pas facile, mais bon, en vrai, on oublie, enfin, tu vois. Et elle, en fait, elle aurait vraiment voulu être... mise au courant, en fait. Elle aurait voulu savoir. Et donc, c'est en ça qu'elle a créé ce compte par la suite. Tu sais, create what you didn't get, tu vois. Et donc, elle était genre, moi, je veux sensibiliser les gens à ça, parce qu'en fait, c'était très dur pour elle. Moi, j'ai pas accusé le coup, parce que, ça va t'intéresser pour notre histoire, parce que je suis devenu parent, je suis devenu papa, et 10 jours plus tard, je suis parti aux États-Unis pour 10 jours. Je suis parti à une grosse conférence d'illustration et j'ai aussi eu l'occasion de présenter mon boulot. Enfin, c'était vraiment, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était un mentor pour moi pendant très longtemps, etc. Et dans le milieu du podcast et l'illustration dans l'ensemble était assez. Et en fait, on avait pris cette décision à l'époque, genre on avait prévu ce voyage, je suis tombé enceinte, ok, l'enfant sera normalement juste né, mais on s'était dit, ok, très bien, tu pars. Moi, j'en avais parlé à quelques personnes qui me disaient, franchement, ça se fait. Aujourd'hui, on le regrette, hein, aujourd'hui, on le regrette. Mais tout ça pour dire que, voilà, je suis devenu papa, 10 jours plus tard, je m'envole aux États-Unis pour la première fois. Et puis.
Parce que tu m'as beaucoup parlé de la façon dont Madeleine avait vécu.
Ouais.
Je te coupe, hein, pardon, mais toi, comment tu vis la naissance de cet enfant?
Moi, je suis super heureux, je suis content. Mais moi, je suis.
J'ai l'impression que ça glisse sur toi.
Oui, mais en effet, t'as raison, dans le sens où. Moi, j'ai beaucoup de mal à être au contact de mon fort intérieur.
De tes émotions, tu veux dire?
Les émotions, ou simplement. Tu sais. Depuis la naissance de mon fils, maintenant ça va mieux, mais j'ai perdu 16 kilos, genre les 2 premières années, tu vois, et sans m'en rendre compte, en fait. Et tout ça, c'est symptomatique et représentatif d'un fonctionnement en moi qui change et que je travaille, notamment en thérapie, mais ou simplement d'être à l'écoute de mon corps, d'être à l'intérieur. Donc, ce qui fait que quand je suis devenu papa, bah, j'étais juste content. J'ai pas vécu la grossesse ni la dépression postpartum. Et en fait, si tu veux, c'est plus par la suite que j'ai accusé le coup, en fait. Parce que voilà, moi, je pars aux États-Unis, je reviens comme une fleur, genre, je m'occupe de mon petit garçon, etc. Mais le truc, c'est que je suis typiquement le gars qui a un sommeil lourd, qui va pas courir à la moindre chose, que ma femme, oui. Et que moi, par contre, j'ai plus accusé le coup par la suite, en fait, si tu veux, pour rentrer dans ce sujet-là, dans le sens où Madeleine s'occupait à fond de notre enfant. Moi, j'essayais d'aider tout comme je pouvais, tu sais, le truc un peu classique, peut-être, de manière pragmatique, tu sais.
Copilote.
Copilote, exactement. Alors qu'en fait, non, je suis aussi pilote que...
C'est Tristan Champion qui en parle très très bien, qui a fait ce bouquin qui s'appelle La barbe et le biberon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Qui parle de son congé paternité en Norvège.
Ouais.
Ou qui raconte que il était copilote et en fait le congé paternité de 5 mois où tu te retrouves tout seul avec ton môme l'a obligé à devenir pilote.
C'est ça. T'as pas d'autre choix. Mais moi j'avais toujours la place de pouvoir être pilote, mais je c'était inconscient en fait. Ça m'a mis un an, mais en fait digression.
Non, mais vas-y, raconte, ça m'intéresse. Mais...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos-séries, des recos-ciné, des recos-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
C'est, en fait, si tu veux, la première année, pour moi, c'était... on en a déjà parlé avec Madeleine, donc elle ne m'en voudra pas, mais c'est... Je lui en ai longtemps voulu de cette sorte de fusion avec mon fils, et où moi, je n'arrivais pas à trouver ma place. Et j'étais genre, mais moi, je veux bien donner le sein, mais je ne peux pas donner le sein. Moi, j'aimerais bien genre avoir un sommeil léger. Moi, j'aimerais bien... Et si en même temps j'avais besoin de me protéger, dans le sens où genre bah non, genre si y a un petit souci, je vais pas me lever à la seconde, genre bon, il y a aussi le fait que notre fils il a toujours des intolérances alimentaires, il est intolérant au lait de vache et aux œufs, et donc ça, il a eu beaucoup de mal de ventre, il a beaucoup pleuré, il a pas fait ses nuits pendant 6 mois. Et donc du coup, Madeleine était très présente et moi, j'arrivais pas à trouver ma place. Et en fait, ensuite, c'est installé malgré moi, mais j'y suis aussi pour quelque chose.
Bien sûr.
Je prends ma responsabilité. J'ai laissé s'installer alors que Madeleine me disait, mais t'as toute ta place, hein, mec. Mais c'était pas. On était tellement la tête dans le guidon que ça se disait pas forcément comme ça. Mais c'était simplement genre, voilà, ils étaient fourrés à deux et moi.
T'étais à côté.
J'étais à côté et j'observais le truc et je me sentais exclu. Et en fait, c'est lors du confinement l'an dernier où j'ai une sorte d'épiphanie comme ça, où on était coincé à la maison, tu sais, comme tout le monde, et puis je jouais avec mon petit garçon. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai laissé moi ce fonctionnement s'installer. Mmh. Et en réalité, cette place de pilote, cette place, je l'ai toujours eue.
Enfin, tu ne l'as pas prise, mais tu aurais pu l'avoir.
J'aurais pu l'avoir.
Voilà.
Et donc, c'est à partir de là, il y a un an, que je me suis plus réapproprié et où les choses se font beaucoup plus naturellement et c'est cool. Mais
et donc Madeleine t'a laissé de la place.
Ouais,
par rapport à ta peur de...
Bah, en fait, je pense qu'elle m'avait, elle voulait toujours me laisser ma place, quoi. C'est juste, ben, on est différents, ben, le rapport au sommeil, tu vois, que même encore aujourd'hui, si elle entend un petit bruit dans la chambre de Félix, elle va se lever, et que moi, je suis genre, franchement, c'est son toutou qui est tombé par terre, c'est bon.
Oui, parce qu'il y a ça aussi, j'ai l'impression un peu, le problème, c'est qu'elle se levait au moindre petit pépin.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Là où toi, t'avais un côté plus, bah, on peut peut-être laisser
ouais,
faire.
Ouais, c'est ça.
Et ça aussi, il faut se phaser là-dessus,
ouais,
c'est pas évident.
Ouais, c'est pas simple.
Non, vous en avez parlé?
Ouais, on en a parlé, bien sûr, puis on a conscience de ça, et puis, bah, je peux pas faire les choses à sa place, je peux pas l'en empêcher. Mais voilà, oui, on
donc,
en.
De ce fait-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle a tendance à. Est-ce qu'elle a fait un pas vers toi, tu vois, dans le côté un peu chill? Tu vois ce que je veux dire? De pas se lever au premier truc?
Bah, notre fils dort maintenant, donc déjà, oui. C'est plus simple. enfin, je veux dire, il a presque 3 ans, ça fait 2 ans et demi qu'il dort.
Oui.
Mais
pour le deuxième, par exemple, ouais.
Ben,
très bon cas pratique.
Tu vois, ouais, genre. Franchement, notamment avec Postpartum ta mère, toute la sensibilisation autour du sujet, etc. Deuxième scénario, on sait pas, elle est beaucoup plus équipée, elle, moi aussi, de fait, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Et donc, du coup, on est plus en mode genre, bon, ben, on sait plus de choses, on a appris de nos erreurs, et on espère corriger des choses, mais pff, voilà, chaque enfant est différent.
Bien sûr.
Et. On sait pas trop. Mais moi, c'est surtout que j'ai l'impression qu'en fait, il y a des tonnes de choses que je me sens tellement ignorant de tellement de choses, tu sais. Et en même temps, tellement...
Ignorant de quoi, par
exemple ? Ce que je veux dire, c'est que tu deviens parent, tu te rends compte qu'il y a un monde de complexité, de nuances et de discours contradictoires et de faire la part entre ton intuition, entre ta personnalité, entre tes manquements, entre ce que ton enfant te renvoie, entre ce que ton compagnon ou ta compagne vit, entre les différents modèles d'éducation, entre ce qui marche, ce qui marche pas, ou ce qui marche pour toi mais qui marche pas pour quelqu'un. Enfin, plein de choses, tu vois, de ce genre-là. Et moi, tu vois, même de parler avec toi, je me sens un peu genre, bah, moi j'ai ma petite histoire à moi, tu vois, c'est juste genre, enfin, c'est juste genre, j'ai conscience, en fait, du néant de choses que je sais pas et que, mais c'est pas grave, tu vois, c'est juste genre, voilà, j'apprends sur le tas et puis basta, quoi.
Et donc, t'es en train de dire que ta petite histoire, elle est moins légitime que.
Non, bien sûr, mais c'est simplement d'avoir conscience que. Non, mais c'est vrai, t'as raison, non, mais.
Pourquoi tu crois que je t'invite?
Non, je sais, mais c'est juste.
Non, mais en plus, je te pousse là-dedans parce que je crois que c'est un vrai problème.
Ouais.
C'est-à-dire que, comme tu pars du principe... Pour moi, pour moi aussi, cette histoire de devenir pilote aussi, c'est qu'il y a un moment donné où il faut que tu te sentes légitime de pouvoir prendre le volant, quoi.
Oui.
Et si tu pars du principe qu'en fait, tu l'es pas,
ouais,
forcément, t'as pas envie de le prendre. Et forcément, t'as pas envie d'envoyer ton môme dans le mur, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc ouais, en fait, on voit que t'es légitime. De venir parler de ton histoire. Parce qu'en fait, ton histoire, là, t'es en train de me dire plein de choses qui sont hyper intéressantes et je crois qu'ils vont résonner chez plein de gens.
Ouais. Non, bien sûr, mais ouais, je reviens sur ce que j'ai dit. Au moment où je l'ai dit, j'ai dit, Jérémy, arrête tes conneries.
Mais... Non, mais t'as encore ça en toi, en fait.
Ouais, bah c'est. Je pense. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais plein de convictions. J'étais sûr de tellement de choses.
En fait, t'as dit tout à l'heure que t'avais une éducation religieuse forte.
Ouais, très forte, ouais. Et en fait, pour moi, voilà, j'ai 32 ans aujourd'hui. Pour moi, mon vécu, c'est une longue déconstruction de plein de constructions, justement. Tu vois, je pense que là où je parlais de... Où je me sentais... Enfin, je sais que je suis légitime. Quand je suis de l'autre côté du micro, je suis la première personne à dire comme toi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je me retrouve à un point de ma vie aujourd'hui où je me sens parfois un peu comme un... je me sens pas comme un bébé, mais je me sens parfois comme un bébé de genre... Tu sais, je sais pas, par exemple, la construction du couple, ou le patriarcat, ou l'éducation, ou la sexualité, enfin plein de trucs comme ça, où je suis genre... Tu sais, moi j'avais des genres de carcans très clairs et nets quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, et pendant qu'ils m'ont accompagné longtemps... Et que, en fait, quand je les ai confrontés à la réalité, puis aussi, je suis très sensible à la santé mentale aussi. Il y a 9 ans, j'ai eu un temps de passage à vide comme ça pendant 6 mois où ma santé mentale, elle a vraiment un peu débloqué. Enfin, ça a été vraiment la période un peu plus noire de ma vie. Et où justement, voilà, tu me parlais de religion ou quoi, où toutes les choses que je croyais, ben, en fait, face à la santé mentale, qui débloque, en fait, tout ce que moi j'appelle des petites amulettes magiques ont été éprouvées Et en fait, ça a été ça, plus quelques autres événements qui ont commencé à un petit peu ébranler le sorte de château de cartes, mais de cristal, tu sais, genre magnifique, qui était solide. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs événements comme ça dans ma vie qui sont venus genre juste détruire le truc. Et en fait, la parentalité, la paternité, c'en est juste un de plus. Et tu vois, moi, j'ai abordé la parentalité avec ces modèles un peu patriarcaux, peut-être un peu classiques aussi. Tu sais, on s'est marié, voilà, on s'est marié, on avait 25 ans, on est devenus parents à 29, et avec certaines conceptions. Et puis que simplement, au plus le temps avance, au plus en fait mes conceptions de la vie se nuancent, s'enrichissent. Et où je suis simplement genre, oh putain, c'est ce fameux truc, c'est pas un fil philosophique un peu bateau, mais que genre, au plus tu avances dans la vie, au plus tu te rends compte que tu sais pas en fait, tu vois. C'est ça que je veux un peu dire. Et que du coup, pour moi, en soi, la parentalité, la paternité, c'est l'autoroute pour en fait, mais découvrir, mais et déconstruire, et une couche de l'oignon, et encore une couche de l'oignon, et genre, mais en fait, cette couche d'oignon ne termine jamais, c'est pas possible. Et je trouve ça fascinant, mais en même temps, un vertige incroyable. Ouais. Tu sais, j'ai une sorte de... Bref. Enfin non, ce que je veux dire, c'est genre...
Tu crois pas que tu vas me laisser comme ça, hein. Désolé, hein, vraiment.
Non, mais tu sais, genre, je suis quelqu'un qui a beaucoup de... C'est quoi le terme de... De compréhension pour les autres, de...
D'empathie,
de... Non, mais il y a un autre terme de... D'indulgence envers les autres.
Ah, okay.
Et envers moi, beaucoup moins. Je suis très dur avec moi. Et donc, en fait, mais je peux vraiment dans cette indulgence, genre, je sais mentalement que, en fait, je suis indulgent avec moi, je le fais consciemment, je suis indulgent envers moi. Mais inconsciemment, je sais qu'il y a des mécanismes de fou à l'intérieur de moi. Et tout ça pour dire que j'apprends sur le tas avec mon enfant, et bientôt avec un deuxième. Et voilà, toutes ces déconstructions et cette reconstruction, c'est genre... Ah ouais, et ça se fait en live avec toi. Mais moi, je suis pas dans le camp de genre, putain, j'ai explosé sa vie, j'arrive à jamais s'en remettre et tout. C'est pas ça. Je suis pas là-dedans. Mais malgré tout, c'est juste genre, ok, sur le terrain. Mais comme tout, hein, dans ma vie, genre l'entrepreneuriat, le boulot, le couple, tout, je veux dire, c'est tout. J'apprends tout sur le terrain et je suis très là-dedans, très sur le terrain que je peux croire quelque chose de très théorique et ça me va très bien. Je suis quelqu'un de très mental, mais en fait, la transformation se fait dans le dur, se fait dans le physique, dans le corporel. Et en fait, un petit enfant, un petit bébé, et c'est ça que je trouve dingue, c'est qu'il est là tout petit, tout mignon, tout innocent, et que en fait, il vient exploser, bah, je l'ai dit à lui.
Tu fracasses ta tête.
Ouais, c'est ça. Mmh. Et heureusement.
Tu regrettes pas?
Du tout.
Ok. Tu sais, parce que comme t'avais ce truc de putain, en fait, je viens avec toutes mes... Comment dire? J'ai avec toutes mes idées reçues sur le monde, toutes mes idées préconçues, etc. Il y a ouais. des gens qui vivent toute leur vie avec ouais. ça et qui ouais. meurent comme
ouais.
ça.
Ouais.
Et tu regrettes pas de pas les avoir laissées intactes, justement, ces idées préconçues?
Ah non. Non, non, jamais de la vie. Je veux dire, moi, c'est le...
Mais tu pourrais, tu vois. Tu pourrais dire, putain, en vrai, j'étais mieux avant, je me posais moins de questions. Tu
non,
vois.
Non, j'étais pas mieux avant.
Okay.
Non, j'étais pas du tout mieux avant. Pour moi, je dis parfois de manière cheesy, si je devais écrire un roman, ça s'intitulerait Un long chemin vers la liberté. Enfin, tu vois, dans le sens où genre, c'est genre explorer. Enfin, je veux dire, avant, ma conception du monde, elle était très petite. Et puis maintenant, en fait, elle est devenue simplement... Au fur et à mesure du temps, je disais que mon bac à sable s'ouvrait. Et maintenant, il est devenu infini. Et donc voilà, pour moi, l'apprentissage, il est infini aussi avec la parentalité, tu vois. Mais et puis, ouais.
Comment tu vis le... Parce que tu disais tout à l'heure que ta femme avait fait une dépression postpartum.
Ouais.
Émotionnellement, comment tu vis, toi, de voir ta femme vivre à ce point-là mal sa nouvelle maternité?
Moi, c'était compliqué parce qu'en fait, on n'avait pas les mots. Donc, on ne savait pas qu'elle faisait une dépression postpartum. On
pense... Ah, du tout.
Non, enfin c'est par la suite en fait. Et puis aussi elle a fait une thérapie aussi. Et puis on a pu mettre des mots, une grammaire, un vocabulaire sur ce qu'elle a vécu. Mais on avait l'impression, et puis c'est ce que tout le monde lui renvoyait aussi. C'était genre tu fais bien les choses. Et en effet, en fait, elle gérait grave, elle gérait peut-être trop bien même. Et du coup, les gens à l'extérieur n'arrivaient pas à voir. Et même moi, je n'arrivais pas à voir. J'étais bluffé. j'arrivais pas à voir qu'en fait elle n'allait pas bien. Elle avait l'impression de faire ce qu'il fallait, moi j'avais l'impression de faire ce que je pouvais, et on fonctionnait, et elle avait l'air de dire que c'était compliqué pour elle, mais c'était genre la normalité des femmes. Tu vois, c'est en ça aussi que je te parle de genre, mais non, c'est pas normal en fait. Mais que du coup, on n'avait pas ces mots pour les nommer à l'époque, et qu'aujourd'hui, on les a, et puis on a encore plein de choses à développer, mais tu vois. Et donc, en fait, c'est ça qui me tue, c'est simplement qu'on savait pas. On savait pas, et qu'il y a tellement de femmes, et d'hommes aussi, qui souffrent de cette situation, mais que c'est pas nommé. Et c'est pour ça en fait qu'elle a créé son compte Instagram Postpartum ta mère, parce qu'elle avait l'impression que c'était un grand immeuble avec plein de mamans qui galèrent, mais qui se parlent pas entre elles. Tu sais. Et donc du coup, elle a juste créé un truc pour genre, bon, allez, il faut qu'on ouvre les vannes, quoi. Et c'était avant que le hashtag mon postpartum se démocratise, ouais, etc. Tout ça. Elle est super contente qu'évidemment maintenant la parole se libère, mais malheureusement, on a toujours aimé être un peu libéré la parole, en fait. Juste, parlez-vous, genre, il faut qu'on se parle, en fait, simplement. Voilà. Donc moi, comment je l'ai vécu, juste, je savais pas, c'était pas facile. C'est que par la suite, comme je t'ai dit, qu'un an plus tard, je commençais à être un peu amer, où je me disais, mais je me sens expulsé de ce trio.
Et c'est venu un an plus tard.
Ah ouais.
Ah, j'avais pas la timeline, j'avais pas compris.
Non, pendant un an.
Pour moi, c'était tout de suite, en fait.
Ah non. Moi, okay. C'était un an, comme je disais, au confinement, où j'ai sorti de petite épiphanie, non, t'inquiète, pas de souci. Et où j'étais genre, mais en fait, j'ai toujours eu ma place et je l'ai pas prise. Et de par toutes ces constructions aussi, que tu te dis, bah, c'est normal, bon, bah, too bad, c'est pas cool, tant pis, c'est nul, mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, en tant que papa, moi aussi, c'est un long chemin de réappropriation de ma place, en fait. Place que j'ai toujours eue, tu sais.
Ouais, et en même temps, c'est dur, je crois, pour votre génération. Ma génération, je crois qu'on est vraiment... Moi, je suis vraiment au milieu, quoi, tu vois. C'était avant, c'était avant les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, moi, j'ai 10 ans de plus que toi, donc ouais. Avant tout ça, quoi. Et puis, il n'y avait pas tout ce contenu. Et de cette là... Je crois que dans votre génération, il faut réinventer un modèle qui n'existe pas, en fait.
Totalement. C'est le vertige. Non, c'est vrai. Ouais. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas, mais en même temps, tout reste à faire. Et puis, tout change tout le temps, en fait. Enfin,
mais si on ne savait pas.
De quoi ?
Bah si, en fait, je ne sais pas comment... C'était quoi ton modèle paternel, toi ?
Non, mais quand je dis on ne savait pas, c'était genre, par exemple, pour la dépression postpartum.
Ah oui, pardon. Oui.
Tu vois, c'était plutôt ça.
Je parlais de ta place à toi,
ah,
ton
oui.
père.
Ben... Histoire de daron, allons-y. Mon grand-père a quitté ma grand-mère. C'était un peu la première génération de divorce, tu sais. Donc c'était quelque chose d'assez lourd. Mon papa, je pense qu'il avait 10-11 ans quand il est parti. Et du coup, mon papa m'a toujours dit « T'as de la chance d'avoir un père, parce que moi, j'en ai pas eu. » Et mon papa a toujours voulu être très présent en tant que papa. Et je sais que c'était pas simple pour lui. C'était pas simple pour lui à essayer de créer quelque chose qu'il a pas vraiment eu. Il y a aussi mon grand-père était alcoolique, genre des trucs un peu moches. Donc moi, voilà, j'ai grandi avec ce modèle d'un papa qui voulait être présent et qui faisait comme il pouvait et qui a très bien fait, mais que, voilà, nulle éducation n'est parfaite et puis la mienne ne le sera pas non plus. Ouais, est-ce que t'as une question précise ? Enfin, dans le sens où je me suis construit, voilà, papa, maman, parents toujours mariés, le couple soudé... c'est intéressant que tu poses cette question parce que justement c'était un modèle très le couple d'abord, genre si nous on est bon, ça marchera avec les enfants, mais c'était ma mère d'abord, tu vois, et que aujourd'hui peut-être justement là je fais ma petite thérapie avec toi en live, le fait que après les podcasteurs on est un peu là pour ça, hein, je me suis dit mais en fait si mon couple si ça va pas, bah ça peut pas aller avec l'enfant non plus, peut-être, je sais pas, je fais peut-être un lien un petit peu bateau vite fait bien fait,
je suis d'accord avec ça,
mais y avait ce truc de moi j'apprends à, si tu veux, aujourd'hui à être ma propre personne, et en fait moi je me suis beaucoup si ça va avec ma femme, ça va bien. Si ça va pas, je me sens pas bien. Et aujourd'hui, j'apprends à être autonome. Justement, la paternité te force à devenir autonome et à, bah, tu peux plus entièrement fonctionner
en binôme.
C'est juste, on est en tant qu'individu. Tu sais, il y a un truc qui disait genre, avant on se regardait dans le blanc des yeux, maintenant on regarde dans la même direction, tu sais. Et c'est pas toujours simple, tu sais, de pour moi, c'est voilà, ce travail de s'autonomiser, d'être là l'un pour l'autre. Tu sais, on parle de l'amour conjugal et l'amour familial, tu sais. Et que du coup, ben, voilà, on est toujours cette cellule, mais on fonctionne comme une team. Et ouais, voilà. Enfin, c'est...
Tu racontais aussi, tu me racontais que tu avais lancé Sens Créatif.
Et hop, la boucle.
Voilà. Dans une période compliquée pour toi professionnellement.
Ouais.
Qui est en plus en rapport avec ta paternité.
Totalement. Ben, moi, c'est simplement, c'est genre, bon, j'ai une bouche de plus à nourrir. J'ai plus de taf.
Pourquoi t'as plus de taf?
Parce que j'étais très occupé avec Félix. J'essayais de manière très pragmatique d'aider comme je pouvais à la maison. Et quand on est freelance et que tu n'investis plus dans ton boulot, que tu ne donnes plus à la machine ou quoi, et puis bon, j'avais une économie encore plus fragile qu'aujourd'hui. J'avais pas une économie qui tournait toute seule sans que je fasse rien, tu sais. Et en tant qu'artiste, Enfin voilà, c'était une économie fragile et on a envisagé que j'arrête tout. Ça faisait 6 ans que je construisais cette carrière d'illustrateur. Et puis en fait, on s'est dit non, c'est juste trop bête d'arrêter là. Pourtant, je pense que ce qui avait rassuré Madeleine, c'est que je suis allé voir les petites annonces. Je suis allé au Franprix en face de chez moi. Je suis allé au Monoprix en disant, est-ce que vous cherchez quelqu'un?
Ouais, donc t'étais vraiment prêt à...
Ah, j'étais prêt. Parce que j'étais genre entre ma carrière d'illustrateur et mon enfant... Ben c'est mon enfant qui gagne haut la main, tu vois. Moi, j'étais prêt à tout lâcher. Et puis...
T'avais pas en tête de devenir graphiste en agence ou un truc comme ça? Tu t'es tout de suite dit, let's go au Franprix pour mettre des trucs dans les
rayons. J'étais graphiste par le passé. J'étais graphiste pendant 3 ans. Puis après, l'illustration. J'étais dans une sorte de... Il faut que je trouve un boulot immédiatement. Tu sais, un truc un peu facile, un peu alimentaire. Le truc, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui, genre... Ça a changé aujourd'hui, mais... très métier passion, et donc si je suis à fond dans quelque chose, je peux pas le faire à moitié. Je pense que j'ai été graphiste pendant 1 an et demi pour une ONG, ça m'a tué parce que créativement, genre, je m'y retrouvais pas, quoi. Genre, donc moi je suis un petit peu du genre all in, tu vois, ou alors autant faire un truc rien à voir et au moins je ramène du blé à la maison, tu vois. Et je pense que quand elle a vu que j'étais prêt à ça, elle m'a dit genre non, franchement non. Et du coup, c'était genre ok. Donc du coup, moi je me retrouvais un petit peu tout en bas et je pouvais que remonter et je me suis dit franchement le feu aux fesses, on refait décoller cette carrière d'illustrateur. J'avais tous les bons dominos en place. Mes potes illustrateurs, ils se disaient genre on comprend pas pourquoi est-ce que ça prend pas plus que ça. T'as tout mis en place pour que ça fonctionne, les bons clients, l'agent, les personnes que tu connais, enfin tout, tu vois. Et je me suis dit, moi j'ai un amour du podcast depuis toujours, enfin moi j'écoute des podcasts depuis 6-7 ans. Ça a
parti... Avant que ce soit cool.
Avant que ce soit cool, en France en tout cas.
Oui.
Moi, ça a été une ouverture sur le monde. Hein, je te parlais de déconstruction. Ça a été une ouverture sur le monde de fou en termes de mes constructions personnelles, mais aussi en termes d'entrepreneuriat, en termes de freelancing et tout. Et puis, donc, du coup, je me suis dit, mais je vais faire un podcast et je vais aller interviewer les personnes, mes potes, les copines, les copains qui, dans la profession, leur demander comment ils ont fait en fait. Et 2019, qui devait être l'année où j'allais raccrocher, en fait, est devenue ma meilleure année, en tout cas jusqu'à aujourd'hui en date, parce qu'en fait, j'ai mis en pratique tout ce que j'avais appris et grâce à mes interviews et puis je les ai partagées avec tout le monde. Et puis voilà, Sens Créatif, voilà, cette 3e saison là, et j'adore ce projet. Enfin, c'est genre, je te l'ai dit un petit peu en off, je dis parfois en rigolant qu'après avoir épousé ma femme et fait un enfant, c'est la 3e meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Il y a un truc dans le podcast, dans le partage, là. Tu vois? Ouais.
Et pourquoi tu viens ici?
Parce que tu m'as invité.
Non, mais pour parler de quoi?
Je pense que... Alors, je m'attendais pas à cette question, mais... Je pense que pendant longtemps, pour moi, Mon boulot et le dessin, c'est un peu la chose la plus importante dans ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, je l'associe à cette sorte de construction et de consolidation de mon ego, de cette sorte de rêve d'enfant que j'ai voulu consolider et que j'ai pu, à ma hauteur, concrétiser aujourd'hui. Mais en fait, y a tellement plus. Enfin, tu vois, je suis tellement plus que juste un illustrateur, tu vois. Et déjà, je suis juste moi et c'est déjà suffisant.
C'est pas mal, oui.
Ouais.
Tout à fait.
Non, mais tu sais, on est là, tu fais quoi dans la vie, machin, truc. Et c'est genre, non, moi, je suis juste d'être. Et puis après, oui, voilà, je suis papa, je suis marié, je suis illustrateur, je suis podcasteur, je suis toutes ces choses. Je pense que Madeleine s'est approprié ce sujet de la maternité plus vite que moi. Parce que c'était viscéral et presque de la survie pour elle d'aborder le sujet. Et grâce à elle et grâce à cette sensibilisation, notamment du postpartum et tout, moi aujourd'hui, je trouve que les papas, ils devraient se parler entre eux. Parce que je vois toutes ces femmes qui parlent entre elles. Et je trouve ça magnifique. Mais moi, devenir papa a aussi révélé aussi le moche en moi. Plein de choses moches. Toutes mes parts d'ombre, etc. Auxquelles je fais un câlin aujourd'hui aussi, tu sais. Où je suis pas en train de dénigrer ces parts-là, genre c'est pas bien. Mais c'est compliqué.
Quelle part d'ombre ?
Simplement, je pense pas à un truc en précis, mais précisément, mais c'est simplement... quand par exemple justement malgré toi tu fais du tort à ton enfant, tu sais, j'ai une petite anecdote pour toi à ce sujet là et oui, mon fils venait de naître et au bout d'une demi-heure, une heure, une infirmière me dit: Monsieur Clay, est-ce que vous voulez habiller votre fils? Je dis oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc j'habille Félix qui a... Voilà, ça fait une demi-heure, une heure qu'il est sorti du ventre, tu sais. Il était vivant depuis neuf mois, mais voilà, on se comprend. Et là, je mets son petit vêtement. Et là, il y a son petit doigt qui se coince dans la manche. Il se tord, là, comme ça, je te le mime. Et il hurle. Et moi, je suis genre... Oh, j'ai une vague d'empathie et de compassion monumentale qui m'a envahi pour mon papa. Parce que je me suis dit... Mon fils a une demi-heure de vie et je viens déjà involontairement lui faire mal. Et là, j'étais genre, oh mon Dieu, tu vas, je viens de murmurer. Et en fait, c'est ça, je te parle de la part d'ombre, c'est simplement de genre, on compose comme on est, on fait famille comme on est, avec nos beaux côtés, nos moins beaux côtés. Et ça se partage autant les bons côtés que les mauvais, mais aussi avec d'autres papas. Tu vois, c'est en ça que je trouve trop bien ce que tu fais, avec l'histoire de Daron, et simplement, moi je me dis, faire des cercles d'hommes, de papas qui se parlent, juste libérer la parole, c'est ça le podcast, c'est juste libérer la parole, juste qu'on se parle, et qu'on se parle des choses, et je pense que c'est peut-être aussi de nouveau une construction sociétale, ou j'en sais rien, mais qu'en tant qu'homme, on a plus de mal à, tu vois, de parler de ce genre de choses.
De parler des émotions.
Ouais. Mais même, tu sais, je disais, genre, d'être in touch, tu vois. Genre, même moi, juste, genre, d'être... Genre, ah ouais, je ressens ça. Enfin, je veux dire, comme dit, je suis quelqu'un de très mental. Et moi, c'est une longue réappropriation de mes émotions, de mon corps et tout ça. Et ça se passe à travers, notamment, le fait de devenir papa. Et... Donc, je sais pas exactement ce que je suis venu te dire. C'est juste le flou, mais la beauté d'être sur le terrain, tu sais, et d'embraser le chaos du truc. Je suis vraiment dans une saison de ma vie où j'accepte le chaos simplement. Et en réalité, je me sens beaucoup mieux dans le chaos que dans le contrôle, que dans l'anticipation, que dans la réflexion. Quand j'ai plus le temps de penser, en fait, je me sens beaucoup mieux. Et en fait, quand je me sens dépassé, en fait, je vais pendant très longtemps angoissé, essayer de tout bien anticiper. Et là, c'est genre... Et une fois qu'en fait, la limite est dépassée, ben en fait, tout va bien. Je suis juste dépassé. Et en fait, ça me va. Mais j'ai toujours cette marge de manœuvre qui est parfois compliquée à anticiper.
Comment t'anticipes justement l'éducation à la religion de tes enfants avec ta propre éducation à toi?
Très bonne question. Rire nerveux. I don't know. Je ne sais pas.
Ça te fait peur un peu?
Ouais.
J'imagine.
En fait... Moi, je t'ai parlé de tout ça parce que je me sentais en confiance avec toi, même en off.
On n'est pas obligé.
Non, non.
On peut cut. Hein. Franchement, mec, on cut si tu veux.
Non, non. En fait, ça me dérange pas. C'est juste que je sais pas. Comme beaucoup de choses que je te dis là, c'est je sais pas en fait. C'est que
tu m'as parlé de ton éducation religieuse dans le micro. Hein, tu
ouais, vois. Ouais. Pas de soucis, bien sûr. Okay. Ouais, ouais. C'est
parce que pour dire aux gens, on en a parlé off.
Oui. Non, c'est une vraie question. Je pense qu'elle, on en parle avec ma chérie. Et moi personnellement, je préfère aborder ces questions. Moi, on a répondu à des questions que je me posais même pas. Tu vois. Moi personnellement, je voudrais aborder ces questions le jour où mon fils les aborde de lui-même. Parce que de ce qu'on observe aussi chez nos amis, qui n'ont pas d'éducation religieuse ou même qui sont entièrement anti. Ils disent, ah, punaise, mon fils, l'autre jour, il me parle de genre qui est Dieu, ou genre ils ont envie d'aller dans une église, ou des trucs comme ça. Et ils sont genre, mais nous, ça ne nous intéresse pas du tout, enfin, comment ça se fait? Donc, du coup, on se dit, ben voilà, c'est des.
Parce que les enfants vivent dans notre société.
Exactement, exactement. Et donc, moi, j'ai plus envie de. D'adresser ce sujet quand il est amené. Mais bon, c'est difficile d'en faire abstraction, parce qu'en fait, cette culture est tellement présente dans ma famille. Que, en fait, je pense que quelque chose que j'ai appris, c'est que moi, on a mis trop d'emphase sur des choses. Et c'est devenu ce truc, mais pas que dans la religion, hein, je veux dire tout, genre une intentionnalité extrême sur plein de choses qui peuvent devenir névrotiques du coup, parce qu'il y a une emphase, genre.
Comme quoi, par exemple?
Bah, je sais pas moi.
Des principes de vie, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est genre.
Tu rencontres une femme, il faut la marier.
Ouais,
puis après, tu vas lui faire des enfants.
Oui. Ou...
Ça me parle, hein, tu sais, j'ai eu la même. Hein.
Tu sais, ou par exemple, la sexualité, c'est que entre un homme et une femme, dans le cadre du mariage, par exemple, je te donne un exemple un peu bateau, mais c'est un peu ça. Puis il y a des tonnes comme ça, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, la question de Dieu, j'ai pas envie de dire, bon, c'est genre, d'avoir la discussion. C'est genre, ben écoute, oui. Fils, Dieu, voilà ce que c'est. Tu vois ce que c'est? C'est ce que je veux dire? Mais en même temps, c'est genre, voilà, tu peux pas non plus totalement occulter d'où tu viens. Et ben, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je suis tombé sur un livre pour enfants d'auteur que j'apprécie, qui, bon, c'est souvent anglophone, qui était genre « What is God ?» Et j'étais genre, ben voilà, moi je me trouve en phase avec leur théologie, avec ces valeurs-là. Et je l'ai partagé à ma femme, j'ai dit, voilà, je me sens à l'aise de peut-être partager plutôt ce livre-là, mais qui est pas, c'est pas dogmatique, tu vois. La question du divin, elle est beaucoup plus... je sais que ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vraiment ce truc d'amour avec un grand A, tu sais. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et c'est tout.
Elle a une éducation religieuse, elle.
Oui, on vient du même milieu. Mais ce que j'essaie de dire, de manière un peu compliquée, mais c'est que je sais que si j'occulte totalement la question, si je mets ça vraiment entièrement sous le tapis, je sais que mon fils, il va aller fouiller. Que si je mets une emphase, il va être genre le rejeter. Non, rien à foutre de tout ça. Et donc, du coup, pour moi, c'est cette recherche de justesse, de genre l'adresser, mais comme quelque chose de normal, juste qui fait partie de la vie, qui fait partie de la conception de certaines personnes. Et où moi, je me sentirais pas de dire voilà la vérité. Mais plutôt, voilà, papa, il a plutôt tendance à croire plutôt ça, ou plutôt d'approcher ça comme ça. Et puis de pouvoir l'encourager à aller explorer par lui-même. Parce que moi, ce dont j'ai souffert, c'est que c'était une sorte de... Il n'y a qu'une seule vérité, c'est comme ça.
Alors après, voilà, il y a le débat, genre une vérité, plusieurs points de vue et plusieurs vérités, tu sais. Bon, ouais. Je ne sais pas forcément où je me situe à l'heure actuelle. Tu sais, quand j'étais petit, ben, le soir, on lisait des histoires de la Bible, tu vois. Et je suis dernièrement allé retourner chez mes parents et puis je suis retombé sur toutes ces petites histoires, tu vois. Et en vrai, je veux dire, on regardait des films, j'ai été éduqué à la bande dessinée, il y avait une ouverture sur le monde et sur la culture et tout, qui passait beaucoup par la bande dessinée et le cinéma. Mais moi, je avec du recul, et ça me fait bizarre parce que si mon papa écoutera ce podcast, ça, c'est tendre et intime et un peu, voilà. Mais je pense que j'aurais aimé qu'on me raconte autre chose le soir. Et en même temps, je comprends, parce que pour eux, c'était important de transmettre ça, parce que c'était vraiment vecteur de vie pour eux. Et donc, du coup, c'est normal de le transmettre à son enfant. Alors, on est dans un vrai sujet, là.
C'est un vrai sujet.
Ouais. Non, mais voilà, c'est ce que je me sens animé, là. Tu vois, ouais, genre. Parce que c'est aussi peut-être plus un sujet. Enfin, comme dit, la paternité, j'apprends sur le tas. Et puis voilà. Et puis ça, c'est quelque chose où ça m'a tellement marqué, en fait, qu'aujourd'hui, si tu veux. Pour être tout à fait honnête, j'aimerais pouvoir aborder ces questions au milieu du reste. Mais tu vois, par exemple, mon papa nous a offert il y a quelques semaines, quand on a été chez eux, un livre sur les animaux. Mais c'était avec l'angle, c'est Dieu qui a créé les animaux. Le livre, il est cool, il est bien illustré, tout ce que tu veux. Et c'est vraiment très léger. Genre, vraiment, c'est très léger. Mais
ça connote le truc.
Ouais, mais moi, je suis genre, j'ai du mal à. Moi, quand je lis le livre, je parle juste des animaux. Pourtant, peut-être que mon papa s'est rendu compte qu'on n'en parlait pas forcément nous, et que du coup, il s'est senti obligé, je sais pas, de donner le livre ou, tu vois, d'enclencher la conversation avec le petit-fils, je sais pas.
Et c'est intéressant.
Voilà, j'ai une ambiguïté par rapport à ça parce que je suis genre, comme je t'ai dit. Je veux pas d'en face, mais je veux pas non plus le mettre sous le tapis. Et je pense que ma femme a plus de facilité à peut-être. Elle m'a dit qu'elle a trouvé ça cool parce qu'elle disait bah voilà, ça nous permet de justement pouvoir un petit peu en parler. Que moi en fait c'est trop lourd. J'arrive pas à l'aborder. Alors que en vrai, je veux que ça fasse partie de l'ADN juste normal. Tu vois.
Puis en plus, il y a un truc à expliquer à ton fils aussi, c'est que scientifiquement, c'est pas Dieu qui a créé les animaux. Des os, tu vois, c'est qu'il y a une autre,
ouais,
une autre lecture.
Mais moi, j'ai un milieu créationniste.
Bien sûr.
Tu sais.
Non, je sais.
Donc, du coup, c'est genre.
Mais tu vois, à un moment donné, est-ce que c'est pas un truc aussi que tu veux amener à ton fiston de venir dire, tu vois, il y a cette histoire-là que moi j'ai apprise, que j'ai.
Oui, voilà. Que j'ai... C'est l'ADN familial.
Voilà. Et en fait, il y a une autre histoire qui est racontée par la science qui explique que, l'évolution, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais c'est cette multiplicité de compréhension du monde. Que je veux pouvoir transmettre à mon enfant. Parce qu'en réalité, même si je suis dans un processus de déconstruction et de reconstruction, notamment de mes convictions religieuses ou spirituelles, je pense que d'avoir vécu tout ça me permet d'avoir une vision, une compréhension du monde très ouverte. Tu sais, où je suis dans la capacité de dire « c'est que des conneries ». Parce qu'en fait, j'ai vu plein de choses et j'ai rencontré des gens très intelligents et des gens très bienveillants et des gens... je veux dire,
t'es pas en rejet total.
Non, je suis en déconstruction reconstruction.
Ok.
Mais c'est aussi pour ça que le podcast, je trouve ça important parce que tu humanises les gens derrière. C'est genre des personnes qui peuvent dire non, mais c'est que des conneries tout ça. Et c'est genre mais en fait, il y a des vraies personnes, il y a des vraies constructions sociales, historiques.
T'es un homme tout nu. Enfin, t'es une personne nuancée avec plein de nuances.
Ouais, voilà.
Et ça permet de pouvoir comprendre en fait parce que tu viens de parler pendant trois quarts d'heure que t'es pas que t'es pas un zinzin, quoi, tu vois, de fou, t'es pas un fou de Dieu, quoi.
Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est simplement que j'essaie juste, comme n'importe quoi, quel que soit le sujet, de deal with my shit, tu vois, juste genre, juste d'essayer de démêler le truc et de le faire en famille, de le faire individuellement, de le faire en couple, de le faire en société, de le faire en podcast, de le faire en créativité et tout. Et donc, du coup, ce que j'ai appris, c'est de suivre mon intuition beaucoup plus. Et c'est un long processus, parce qu'avant tout, passer par la divinité, et aujourd'hui, je me réapproprie les clés. Sans tout balancer, parce que ça m'a permis d'avoir une compréhension du monde très large, une empathie et voilà, ouvrir des petites boîtes que certaines personnes n'ouvriraient pas. Mais j'apprends à juste suivre mon intuition et c'est pareil pour l'éducation, pour la parentalité. Mais du coup, c'est juste, c'est pas des recettes, c'est pas des livres, c'est pas des... J'ai l'impression de, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, à simplement essayer de renouveler la roue, mais en fait, tu peux pas, je veux dire, genre, tu peux pas devenir quelqu'un sans assimiler celui que tu étais, tu sais. Donc, en fait, t'es un work in progress, voilà. Tu es un work in progress.
On est tous des
work in progress. Et simplement d'assumer ça, c'est une force.
Merci, Jérémy. Tu sais, tu connais ma dernière question?
Non.
Fast forward.
Ouais.
Dans 10 piges, ils se retrouvent à écouter ce podcast.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as envie de leur dire?
Oh là là.
Oh là là, tu m'étonnes.
Ma numéro 2, je te connais pas encore, mais... Attends, je l'avais pas vu arriver à cette question. Vraiment que je vous aime de tout mon cœur. C'est terrible parce que je trouve que quand tu deviens parent, tu deviens cucu la praline et cosmique à la fois, tu vois. Mais c'est vraiment ça pour moi. C'était genre ma vie, elle est, je vais répondre à la question, hein, mais ma vie, elle est devenue. Elle a pris un tournant existentiel et cosmique, mais de ouf. Et en même temps, c'est d'un terre à terre absolu et d'un côté cucu, tout ce que tu veux.
C'est pas cucu de dire que t'aimes ton fils.
Non, pas ça. J'adressais pas forcément ça, okay. Mais simplement le fait que c'est des choses tellement un petit peu banales du quotidien, tu sais, genre ta vie, elle devient peut-être un peu... Bah, moi, je suis sur Paris depuis 2013. Je veux dire, depuis que je suis devenu parent, je veux dire, ma vie, elle est beaucoup plus routinière, beaucoup plus un peu organisé, un peu plus... Et puis, tu sais, c'est...
En tout cas, pour l'instant, parce que t'as des enfants en bas âge.
En bas âge, ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis, tu sais, le truc de genre, tu verras, c'est que du bonheur, mais en même temps, c'est super dur, mais en même temps, c'est super beau. Donc, tu vois, c'est ce truc...
C'est pas que du bonheur. Enfin, vraiment, je crois qu'il faut arrêter de dire ça.
Exactement, mais c'est vrai aussi, tu vois. C'est vrai.
C'est vrai, par...
C'est vrai, c'est très beau, mais c'est pas facile du tout.
Oui.
Et donc, c'est en ça que le cucu et le cosmique sont en un, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, donc, c'est... En effet, c'est pas du tout cucu de dire que je vous aime, parce que c'est juste très intime. Et genre aujourd'hui, on a été se balader avec mon fils, on se tenait par la main et je lui ai dit Félix, je t'aime. Et il m'a dit je t'aime. J'ai fondu, voilà. Et aussi simplement,
t'as pleuré ?
Non, mais à l'intérieur de moi,
oui,
tout mon petit fort intérieur, il a fait, tu vois, simplement qu'il me le renvoie aussi spontanément. Et j'ai fait de mon mieux, les gars. Genre, j'ai fait de mon mieux. Et j'espère. Je suis qu'au début du. Enfin, je veux dire, Félix, t'auras 3 ans dans ce mois-ci. Et puis, numéro 2, je te dirai bonjour en octobre, tu vois. Mais. Ouais, juste. Soyez indulgents avec moi, j'aurais fait de mon mieux, je vous aime de tout mon cœur. Et j'espère créer une belle chose ensemble.
Merci Jérémy.
Merci à toi.
C'était super.
Merci.
Si les gens veulent te suivre, je vais mettre plein de liens dans les notes.
Balance.
C'était cool de t'avoir.
Ouais, carrément. Ouais.
Puis merci pour le partage.
Ouais.
Je crois que c'est la première fois qu'on parle de religion aussi intensément dans le podcast.
Et pourtant, Histoire de Daron existe depuis combien de temps ?
4 ans là, bientôt.
Yeah.
Merci à toi.
Merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundi de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.